Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voici de retour à la radio en français de la radio UMH à Elche sur la Costa Blanca espagnole, toujours ensoleillé même en hiver. Alors aujourd'hui avec nous, j'ai le plaisir de vous présenter deux personnes qui me sont très chères. Je vous présente tout d'abord Halima Bouchrada. Halima Bouchrada, bonjour.
Bonjour.
Et Alejandro Del Amo, bonjour.
Bonjour
Alejandro,
Pierre.
Alex.
Alex, comme tu veux.
Ça marche. Bon ben, vous êtes venu ici pour une première émission en français. J'espère que ce ne sera pas la dernière et soyez les bienvenus.
Merci beaucoup.
Merci pour votre invitation.
Bon, eh bien, nous avons parmi nous aujourd'hui la chance d'accueillir deux étudiants en traduction et en interprétation de l'université d'Alicante et qui sont assez doués pour les langues, à vrai dire, et qui ont le français comme première langue de spécialité, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça.
Et bon, bah, par exemple, on va commencer par Halima.
D'accord.
D'accord. Et on voudrait quand même que vous vous présentiez un petit peu. Alors, qui est Halima Bouchrada ?
D'accord, ben, je suis Halima Bouchrada, j'ai 20 ans, je suis d'origine marocaine, j'habite en Espagne, j'étudie la traduction et l'interprétation, j'aime apprendre les langues depuis mon enfance, j'adore les langues. J'ai toujours apprécié le français comme une langue d'abord parce que c'est la deuxième langue de mon pays et voilà, j'ai décidé d'étudier la traduction. J'aimerais devenir un jour une interprète, pourquoi pas.
Une interprète, ça, c'est super. Ouais. C'est ce que je préfère moi aussi. Je veux dire, si j'ai à choisir entre la
facile,
traduction,
mais...
c'est pas facile. Mais c'est quand même...
On peut essayer.
Voilà. Et puis c'est quelque chose, enfin, ça permet de, enfin, d'établir des ponts entre les personnes. Je veux dire, l'interprétation est fondamentale dans les relations internationales. Mm-hmm. À l'ONU, pourquoi pas, à l'Union européenne ou ailleurs, dans les instances internationales. Et voilà, vous parlez de vos origines marocaines.
Oui.
Et vous parlez donc l'arabe, le français, l'espagnol et d'autres langues encore ?
L'anglais.
L'anglais, quand même. C'est déjà pas mal, hein, pas mal du tout. Mm-hmm. Ça en fait pas mal. Et bon, je sais également que vous adorez lire et écrire.
Oui, beaucoup. J'écris en arabe.
En arabe, surtout, c'est la langue de votre choix.
Oui.
Vous pensez que quand on écrit, on doit le faire dans une langue en particulier. Vous le sentez en arabe plus qu'en espagnol, qu'en français ou qu'en anglais, par exemple.
Je le sens en arabe. Je ne sais pas pourquoi. J'aimerais bien écrire en français, en espagnol, en anglais.
Mais c'est la langue de votre cœur, peut-être. Celle que vous avez dans votre esprit.
Oui.
Parce que pour l'écriture, c'est quelque chose vraiment de très profond, je trouve.
Finalement. On doit le sentir.
Mm-hmm. On doit le sentir, tout à fait. Et ceci dit, vous écrivez, mais quel genre... est-ce que vous avez un genre particulier ? La poésie, des essais, des réflexions, des romans
Des romans.
Des romans, surtout. Ouais. Et de quel type ?
J'ai essayé d'écrire des poésies, mais c'était très difficile.
C'est compliqué, c'est pas si facile qu'on le dit. Alors.
J'écris des histoires.
Des histoires ?
Oui.
Des histoires du genre
Bon, j'avais un prof qui disait, qui avait lu mes histoires, et il m'avait dit, mais pourquoi tu es triste ?
Ah oui.
Oui, t'as l'esprit triste. Je sais pas, mais j'ai pas l'esprit triste, mais
j'écris... Il y a une certaine mélancolie, peut-être.
Voilà, c'est ça.
Dans ces histoires. Mm-hmm. Et est-ce que vous avez déjà publié quelque chose ou pas encore ? Vous avez 20 ans, vous êtes très jeune.
Pas encore, mais quand j'avais 13 ans, mon prof me encourageait et voulait publier mes histoires.
C'est-à-dire que ça vient de loin, l'écriture
chez
vous ?
Oui, de loin. Oui. J'ai commencé à l'âge de 10 ans.
À l'âge de 10 ans ?
Oui.
Ça fait quand même déjà donc 10 ans de ce côté-là. Mm-hmm. Et bon, bah, on vous encourage à continuer
Merci
sur cette
beaucoup.
Voie. Et à vous lire, si ce n'est pas en arabe, puisqu'on parle de traduction en interprétation, qu'on vous traduise et qu'on puisse vous lire en français, en espagnol et pourquoi pas en anglais dans
pourquoi
toutes
pas.
Les autres langues. Et voilà, avoir le plaisir du partage. On va présenter maintenant un petit peu Alejandro et on reviendra sur vous juste après. Alors, nous avons avec nous aussi Alex Del Amo qui va se présenter un petit peu.
Oui, moi, je viens de Petrel, c'est un village à côté d'ici d'Elche. Et bon, j'ai 19 ans et je fais des études en traduction comme Halima. C'est dans le troisième cours. Et bon, mon passé à la francophonie n'est pas si lié comme celle de Halima. Mais bon, je suis famille en France, donc ça me vient un peu de loin, les passions pour les Français. Et bon, mes séjours en France ont fait cette passion une partie de moi.
Bon, alors des séjours en France qui ont eu lieu
à Besançon.
Besançon.
Oui,
Besançon
et en Bayonne.
Et à Bayonne. Bon, deux villes qui sont situées dans deux extrêmes de la France, dans le sud-ouest et dans le nord-est. Besançon, c'est une ville liée à un grand écrivain français, l'un de mes écrivains préférés, Victor Hugo. Rien que ça, Notre-Dame de Paris, Les Misérables.
Oui, c'est vrai que la cité est complètement pour Victor Hugo. Tu es à la place, il y a la maison de Victor Hugo aussi, et tu peux trouver partout de places liées à Victor Hugo.
Alors, vous avez visité donc cet espace hugolien, cet espace lié à Victor Hugo.
Oui, on a visité sa maison, on a visité aussi une place qu'il a là.
Maintenant, une question, je vais peut-être être méchant, je ne sais pas, vous n'avez que 19 ans, et c'est vrai que ce n'est peut-être pas facile de lire Victor Hugo. Est-ce que vous connaissez Victor Hugo ? L'avez-vous lu ?
Pas beaucoup.
Pas beaucoup.
Pas beaucoup.
Mais quand même.
Non, je ne l'ai pas lu beaucoup.
Bon, alors c'est une lecture conseillée.
Oui. Il y a beaucoup de lectures, donc peu à peu.
Vous avez le temps, pas de souci. Mais enfin, mais de toute façon, c'est vrai que c'est l'écrivain français qui a un vocabulaire le plus riche. On dit qu'il utilisait quasiment 20 000 mots, c'est-à-dire qu'il y a des dictionnaires de 20 000 mots.
Oui.
En général, disons qu'un très très bon écrivain déjà pourrait en utiliser de 8 à 10 000. Donc 20 000 mots, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Bon. Et Bayonne aussi, où il y a le célèbre jambon de Bayonne,
entre autres.
Et voilà. Et vous avez de la famille
à Bayonne. Oui, à Bayonne.
Pas à Besançon.
Non, à Bayonne. La famille
et à Besançon, vous avez réalisé un séjour.
Ouais.
Séjour linguistique.
Séjour linguistique, c'est ça.
Dans le cadre de
Je sais pas, c'était un cours de langue.
Un cours de langue. Fait que vous avez réalisé
oui.
Pendant un été.
On était à l'école en train d'étudier les langues.
Bon, Halima a des qualités comme écrivaine, comme lectrice. On sait qu'elle a un goût très raffiné. Elle nous en parlera après, j'espère bien, qu'on aura la chance de l'écouter. Mais je sais que vous aussi, vous avez quand même un cursus. Vous n'avez que 19 ans et c'est incroyable. Alors, vous êtes également, vous ne l'avez pas dit, mais moi je le sais, musicien.
Oui.
Vous jouez de quel instrument ?
Bon, en français, je ne connais pas exactement le mot, mais c'est une sorte de baryton. En anglais, on le dit euphonium et en espagnol, on le dit bombardino.
On cherchera. J'avoue que je ne connais pas moi-même, mais on va se renseigner.
Je crois qu'il n'y a pas une équivalence.
D'accord. Pas d'équivalence en français. On va chercher quand même. Hein, mais c'est un instrument typiquement valencien, espagnol.
Non, c'est un instrument d'une bande de musique.
Bon, ben on va chercher quand même.
En Angleterre, partout dans le monde.
Et vous jouez dans un orchestre ?
Oui, l'orchestre de Petrel. On est plus ou moins 70 musiciens.
Et ah, quand même.
On fait des concerts, on sort à la rue pendant les fêtes et on joue là.
Par ailleurs, vous êtes un grand sportif ?
Bon, pas un grand sportif. J'aime le sport, c'est ça.
Vous aimez le sport et vous faites du triathlon, c'est ça ?
Je commençais cette année à faire triathlon à l'université.
À l'université, dans l'équipe universitaire ?
Oui, mais en première étage, on peut dire.
C'est donc une première étape, simplement. Oui, vous commencez et vous vous consacrez, au-delà des langues, également un petit peu à la politique aussi. Vous êtes quelqu'un, enfin, qui s'engage en politique.
Oui, j'ai même un parti politique. Oui. Ce n'est pas l'un des partis des bipartidismes. Et bon, je suis dans un parti très engagé.
Très engagé. Donc, vous faites beaucoup de choses et vous parlez plusieurs langues.
Oui.
Le français, l'espagnol et...
Le catalan, c'est ma langue maternelle avec l'espagnol. Je ne crois pas complètement à le terme bilinguisme parce que je crois que ça existe complètement. Mais à la maison, je parle le catalan, l'espagnol, tous les deux.
Et vous seriez bilingue espagnol-catalan, peut-être ?
Oui, on pourrait le dire, mais...
Plus ou moins ?
Oui, on pourrait le dire.
Bon, je veux dire, un stade de bilinguisme parfait n'existe peut-être pas tout à fait, puisqu'il y a une langue de l'affectivité. On en parlait avec Halima d'abord, parce que pour elle, même si elle, elle peut parler parfaitement plusieurs langues, la langue qu'elle ressent en elle comme plus forte pour l'écriture, donc elle n'est pas bilingue en écriture, même si elle peut écrire parfaitement en espagnol, par exemple, ou dans d'autres langues. Mais c'est l'arabe. Alors, chez vous, la langue de l'affectivité, peut-être c'est le catalan, je ne sais pas.
Moi, je croise.
C'est ça. Alors, si vous deviez écrire, vous écririez peut-être en catalan.
Oui, j'essaierai, mais je ne crois pas, donc je ne me questionnais ça.
Vous ne vous posez pas la question. Enfin, qui sait, hein, vous faites déjà pas mal de choses. Alors, je crois que le moment est arrivé de faire une petite pause musicale. Après quoi, on vous retrouve tout de suite et on va écouter une première chanson également de... Enfin, liée à la francophonie, puisqu'il s'agit d'une chanteuse italienne qui chante en français. Elle s'appelle Ingrid, elle est de Bologne. Ses parents adoraient le cinéma et ils adoraient l'actrice suédoise Ingrid Bergman. C'est pour ça qu'elle s'appelle Ingrid. Elle a toujours adoré le cinéma français, la langue française. Et elle s'est dit, moi, la langue que je ressens pour chanter, c'est le français. C'est la langue de son cœur. Nous écoutons Ingrid et In Tango. Un petit hommage à l'Argentine aussi.
Ton cœur, na na na.
On avait envie de danser ici dans le studio, hein, tout le monde bougeait là en ce moment, c'est incroyable. Et bien voilà, hein, c'est reparti avec nos jeunes étudiants de l'Université d'Alicante. qui ont eu vraiment la gentillesse de se déplacer jusqu'au studio de la radio UMH, la radio de l'Université Miguel Hernandez, pour notre émission en français en version originale, qui en est à sa 5e année. 5 ans déjà, donc c'est vraiment un vrai bonheur de pouvoir vous inviter encore, cette fois-ci, 5 ans déjà de radio en français. Nous allons continuer maintenant avec Halima, parce que, bon, on sait qu'elle écrit et elle adore également lire, et on voudrait quelques bons conseils de lecture. Alors, quels seraient vos écrivains préférés, si vous avez des écrivains préférés?
Bien sûr, j'ai des écrivains préférés, et surtout j'apprécie beaucoup, j'adore l'écrivain Gibran, Khalil Gibran.
Libanais.
Oui, américain d'origine libanaise.
C'est ça, tout à fait, oui. Et donc, que j'ai adoré moi-même, Le Prophète, entre autres.
Oui, oui.
Qui a été mon livre de chevet pendant beaucoup d'années, donc c'est très poétique,
oui,
très philosophique aussi. Et donc, c'est des phrases qui restent ancrées chez nous. Est-ce que vous avez des phrases préférées de cet écrivain?
Oui, j'ai des phrases préférées. Mais je ne sais pas, je l'ai pas traduit.
Vous le lisez en arabe,
en
version originale.
En arabe.
Bon, dites-le en arabe et on essaie de le traduire. OK? Ça vous dit? Vous acceptez la gageure?
Je dois avancer un peu. Je dois réfléchir.
Je vous laisse réfléchir un peu. C'est bon?
D'accord.
Bon, pensez à une phrase de votre écrivain, si vous voulez, et après
il disait que la vie est une... je ne sais pas si je vais le traduire bien, mais la vie est une larme et un sourire.
La vie est une larme et un sourire. C'est ça, tout à fait. En fait,
il a un livre qui s'appelle comme ça.
Oui.
Larme et sourire.
Larme et sourire, oui. C'est ça. Vous avez d'autres écrivains que vous aimez également?
Bien sûr. Victor Hugo aussi.
D'accord, vous avez lu Victor Hugo. Entre autres, par exemple.
Entre autres, des Espagnols, j'aime. C'est Antonio Machado.
Antonio Machado.
Mm-hmm.
D'accord. Sur Victor Hugo, qu'est-ce que vous avez lu?
Je commençais à lire à Victor Hugo quand j'avais 13 ans, je me rappelle.
Ah,
parce que c'était, je devais faire comme un compte rendu.
Oui.
Je ne comprenais pas beaucoup parce que c'est un niveau un peu plus élevé.
Quand même, oui, 13 ans.
Oui, ça
vrai.
Fait...
Vous le lisiez en français?
Oui, oui.
Eh bien, 13 ans.
Je pense
même,
qu'il y a des traductions aussi, non?
En espagnol, en arabe, en anglais, dans toutes les langues, effectivement.
Bien sûr. Mais comme je t'ai dit, j'ai dit avant que mon préféré, c'est, c'est Gibran.
D'accord. Et en Espagne, Antonio Machado, c'est la poésie surtout.
La poésie, oui.
Antonio Machado. Mm. Oui. Eh bien, on va demander également à Alex aussi, si Alex est un grand lecteur.
Oui, bon, je n'ai pas le temps pour lire beaucoup, mais j'aime la lecture, évidemment.
Vous avez des écrivains préférés?
Oui, je crois que mon écrivain préféré, c'est un écrivain de Valence. Il s'appelle Vicent Andrés Estelles.
Ah oui, j'adore. El Zamans, entre autres.
Oui,
un
oui,
poème
oui,
magnifique.
Ça, c'est très joli.
Non, il y a Valence, il y a deux amants comme nous. Il n'y avait pas à Valence deux amants comme nous. C'est vraiment un poème que j'adore, hein, que j'ai même moi-même récité à certains moments. Bon, je vous inviterai peut-être à une émission en valencien. Vous m'avez dit que vous parlez également le valencien, qui est votre langue maternelle. Ça vous dit, nous avons également la version valencienne de cette émission. Bon, maintenant, on va parler d'un sujet sérieux quand même. Vous êtes presque à la fin de votre parcours universitaire. Vous êtes en 3e année. Et j'aimerais que vous me fassiez un bilan. Et pour les personnes aussi qui vont écouter cette émission, de ce que ces études ont représenté pour vous, que vous me disiez les aspects les plus positifs, les choses vraiment qui sont vraiment très bonnes ici à Alicante, à l'université, pour étudier donc les langues, pour faire de la traduction et de l'interprétation, et ce que vous amélioreriez si vous en aviez la capacité ou si vous pouviez donc proposer des améliorations.
Par où est-ce qu'on commence?
Ah, je ne sais pas.
Bon, moi, je mets beaucoup le degré en traduction. Ça fait aussi une partie de la multiculturalité qu'on peut trouver là. Par exemple, Halima, elle vient du Maroc. Et il y a des gens qui viennent de Roumanie, de France, de l'Espagne. Et bon, là, on peut se retrouver et on peut apprendre autour de tout cette multiculturalité. Et bon, je crois qu'on n'apprend pas beaucoup le français. On n'a que 3 cours de français, seulement une année et demie.
Et une année et demie seulement à la fac?
Oui, à la fac, seulement langue française, on ne fait qu'une année et demie.
Et comment est-ce possible que vous ayez ce niveau alors?
Ah non, mais parce que...
Vous aimez les langues,
oui,
il faut travailler à côté alors.
Oui, il faut voir la télé à la maison, il faut écouter la radio en français.
Et alors, regardez la télé, écoutez la radio a les émissions en version originale français, hein, à la radio UMH.
Bouquiner,
faire de la lecture donc, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est les bons conseils de nos étudiants. Mmh. D'autres choses encore
Ce qu'il faut améliorer, comme il vient de dire mon camarade, c'est donner une grande importance aux langues. Dans notre cas, le français, par exemple. C'est notre langue de spécialité, mais on ne l'étudie pas.
Pas assez.
Seulement une année et demie. C'est pas,
ça tourne court.
C'est pas suffisant.
Oui. Et bon, c'est-à-dire ajouter... davantage d'heures de français.
Voilà.
Et c'est bon, en principe, vous pensez que tout est magnifique à l'Université d'Alicante. Parlez des aspects positifs aussi, ou ceux qui
nous sont
moins.
Je voudrais encourager tout le monde qui nous écoute, parce qu'en Alicante, on peut étudier les polonais. Et bon,
on peut étudier d'autres langues, c'est ça.
Oui, mais
le polonais, entre autres.
Le polonais, entre autres, on peut étudier le polonais en 4 universités de toute l'Espagne.
Et... Seulement 4 universités espagnoles,
oui.
Dont une ici,
oui.
À la province d'Alicante.
Oui.
Donc c'est très bien. Et c'est une langue aussi qui a une culture derrière elle,
oui.
Intéressante. Vous faites du polonais, j'imagine, donc,
oui,
à l'Université,
oui,
d'Alicante.
Oui.
Et Halima, quelle langue faites-vous?
La langue maternelle.
L'arabe.
Oui.
L'anglais, le français, l'espagnol, le catalan.
J'ai étudié déjà le catalan. Le catalan, oui. Première année et deuxième année.
2 ans quand même. Et vous alors, Alex?
Le français, l'anglais, le catalan comme langue véhicule avec l'espagnol.
Oui.
Parce qu'on va avoir une langue maternelle et si on choisit, on peut avoir 2 langues maternelles. Et ça, c'est l'une des choses que je voudrais ajouter. Je crois que les catalans devraient avoir plus d'importance à l'université.
Vous pensez que le catalan est un peu délaissé peut-être?
Oui,
en
je
tant
crois
que,
oui.
Parce que nous habitons quand même une région dite bilingue, une communauté,
oui,
autonome dite bilingue,
et
où il y a donc le valencien ou le catalan,
oui, on a pas
et
la,
l'espagnol.
On n'a pas l'opportunité d'étudier quelques matières en catalan, on peut seulement les étudier en espagnol. C'est la traduction scientifique, économique, on ne
Vous
peut pas le faire en espagnol.
On devrait avoir le choix,
oui,
également, ou avoir la possibilité de le faire également non seulement en espagnol, puisqu'on le fait tout en espagnol, mais également en valencien,
oui.
C'est ça?
Moi, j'ai aussi constaté que dans notre filière, on consacre tout le temps à l'informatique.
Il y a donc une très bonne formation technique,
oui,
technologique.
Oui, mais moi, je préfère consacrer ce temps à apprendre ma langue de spécialité.
C'est-à-dire se recentrer davantage sur,
voilà,
la langue en elle-même.
Voilà, parce que nous deviendrons des traducteurs et des interprètes.
Des personnes aussi. Je veux dire, il y a,
voilà,
une culture à faire passer derrière.
Bien
pas
sûr.
Seulement une langue,
bien sûr,
mais également une culture, n'est-ce pas?
Mm-hmm. Oui, mais je crois que c'est très important d'avoir des connaissances en informatique, parce que,
oui,
quand on sort de la fac, c'est notre instrument de travail. Il faut bien connaître l'ordinateur,
bien,
parce que sinon on ne travaillera pas.
Je n'ai pas dit le contraire, mais il ne faut pas consacrer tout le temps à apprendre l'informatique,
ah, ouais,
et ne pas donner importance à ta langue de spécialité. Parce que quand même, nous sommes des interprètes.
Oui, et du point de vue formatif, y a-t-il des matières qui vous sont plus profitables ou certaines que vous considérez qu'il faudrait avoir et qui n'existent pas?
Le français, par exemple. Le français en troisième année, quatrième année.
Oui.
Alors, il faudrait mettre du français en troisième et quatrième année.
Voilà. Et pourquoi pas étudier l'interprétation avant...
Et plus de temps, l'interprétation,
oui,
parce qu'on n'a seulement que 3 cours.
Voilà.
Et c'est peu pour interpréter.
C'est très peu.
Ça devient vraiment très, très court.
Très court.
Bon. Eh bien, il ne nous reste que quelques minutes déjà pour clore notre émission. Elle va bientôt prendre fin. Et je voudrais simplement que vous profitiez de ce temps un petit peu, peut-être, pour nous raconter des anecdotes surgies peut-être lors, je ne sais pas si Halima a réalisé des séjours en pays francophone, en dehors du Maroc, qui est lié à la francophonie.
Je n'ai pas eu la chance.
Pas encore. Et pourtant, pas votre encore. Français est excellent.
Merci. J'essaie d'améliorer parce que j'ai besoin d'améliorer.
Vous venez d'où au Maroc exactement ?
Casablanca.
Casablanca, donc la grande métropole
voilà,
du pays.
C'est voilà. Et la ville économique.
Oui. Alors, il y a un très beau film que.
Oui, qu'on a vu, le Maroc, non ?
Qui s'appelle Maroc,
hein, oui.
Qui est peut-être conseillé, peut-être également pour voir, donc, mieux connaître
ce
un petit peu.
Ce multiculturalisme.
Voilà, ce multiculturalisme qui existe au Maroc et peut-être que
l'autre
l'on
Maroc.
Ne connaît pas forcément. Oui, je veux dire, c'est un autre Maroc parce que Casablanca, en général. On ne l'imagine pas quand on passe au Maroc.
On casse l'image classique
voilà.
Sur le Maroc.
Eh bien, bon, Alex, peut-être, vous avez quand même réalisé des séjours. Y a-t-il
oui.
des anecdotes sympathiques à raconter ?
Oui, des anecdotes. Par exemple, la plus drôle, c'est la blague de la cuillère que j'ai appris quand j'étais en France. On m'a dit que le mot cuillère pouvait être aussi masculin dans quelques contextes. On peut dire que je lavais ma cuillère et je lavais mon cuillère. Et bon, ça a été très
rigolo.
Drôle pour moi, ouais. Et aussi, confusion que j'ai eue avec les mots copine, parce que, en fait, je sais pas comment dire en français les mots novia, si c'est fiancé, si c'est.
Alors, fiancé, c'est pour les petits
oui.
surtout. Ça a un sens de prometida en français. Prometido, prometida, fiancé. Et copain, copine, c'est ambigu. Petit copain, c'est clair, que c'est novia, novia. Mais autrement, copain, c'est ambigu, tu joues. C'est un copain, c'est un amigo, ou c'est un novio, une copine.
Donc,
novio, amigo.
Et j'avais une sœur, on m'a présenté, c'était une amie à elle. On m'a dit, Alex, c'est ma copine. Ah, moi, j'ai des problèmes homophobes, mais au principe, j'étais un peu... Je savais pas quoi dire. Et quand je dis qu'il c'était seulement des amis, on a été très rigoleux.
Ouais.
Bon, c'est rigolo, hein. C'est ce genre de truc avec baiser en espagnol, en français,
ouais.
Baisar, en français, c'est...
c'est autre
chose. Excusez-moi. Il faut faire attention à ce genre d'ambiguïté, être constipé, estar estreñido.
Oui, oui.
Et les Espagnols se trompent beaucoup. On va couper bientôt ici. On va finir en beauté, j'espère. Avec quelque chose de très raffiné maintenant, avec la princesse Stéphanie de Monaco, qui elle aussi appartient à un autre pays lié à la francophonie, Monaco, et qui il y a quelques années chantait, et elle chantait comme ça, dans cette chanson, un véritable ouragan d'amour, puisque le français c'est également la langue de l'amour. Je vous remercie d'être venu.
Merci à vous.
Et si vous le souhaitez, vous êtes invité à une prochaine émission avec grand plaisir.
On reviendra parce qu'on a été très bien, on s'est très amusé.
Merci beaucoup, à la prochaine.
Pierre.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.